RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel. Et un nouveau journal avec Marion Cazanov.
À la une, ce cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, après des jours de frappes meurtrières, un cessez-le-feu fragile. Tous deux s'accusent de l'avoir violé à plusieurs reprises. Le président russe propose des négociations directes avec l'Ukraine. Vladimir Poutine balaie en revanche l'ultimatum lancé par les Occidentaux pour accepter une trêve de 30 jours. Et puis en football, déçu en Ligue des Champions, Barcelone et Madrid espèrent bien décrocher un titre quand même cette saison, à savoir celui de champion de la Liga. Les deux clubs s'affrontent ce soir pour un classico à 4 journées de la fin. Après des jours de frappes aériennes, de tirs d'artillerie, un début d'apaisement entre l'Inde et le Pakistan. Les deux voisins se sont accordés sur un cessez-le-feu hier, mais presque aussitôt, ils se sont accusés mutuellement d'avoir violé cette trêve. Ce cessez-le-feu, c'est Donald Trump, le président américain, qui s'est félicité de l'avoir obtenu après une médiation conjointe avec le Royaume-Uni. De son côté, l'ONU continue d'espérer un dialogue entre les deux pays en conflit. Correspondance à New York de Karine Auton.
Très tôt après l'attentat au Cachemire indien, les États-Unis se sont proposés comme possibles médiateurs, étant donné qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les deux pays. Mais c'est la nuit dernière que tout s'est accéléré. L'escalade a mobilisé Washington. Donald Trump a parlé d'une nuit entière de négociations pour s'entendre sur cette trêve. Le premier ministre pakistanais l'a remercié publiquement. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lui assuré que les deux gouvernements avaient accepté de commencer des pourparlers sur un large éventail de questions dans un lieu neutre. Quant au patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a multiplié les approches diplomatiques des deux côtés cette semaine, mais à qui Narendra Modi aurait refusé de parler, il espérait que cet accord aboutisse à une paix durable et à la création d'un dialogue pour régler les problèmes qui divisent les deux pays depuis longtemps. Le Pakistan, qui siège en ce moment au Conseil de sécurité, envisageait de faire entériner cette trêve par le Conseil, mais tout cela pourrait être balayé alors que les deux pays s'accusent déjà mutuellement de violer le cessez-le-feu. Karine Auton, New York RFI.
Les États-Unis, de concert avec les Européens, continuent de faire pression sur la Russie pour un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Ils ont adressé un ultimatum hier au Kremlin, mais le président russe, Vladimir Poutine, n'y a pas répondu et a proposé plutôt des négociations directes avec Kiev. Ce matin, le président ukrainien y voit des signes positifs et se dit prêt à des pourparlers. Les négociations reprennent entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Négociations à Oman, médiateur dans ce dossier. Téhéran précise ce matin qu'elle réclamera la levée des sanctions et le droit à un programme nucléaire pacifique. Le nouveau pape fera une nouvelle apparition aujourd'hui au Vatican à l'occasion de la prière dominicale. Les catholiques du monde entier apprennent à connaître Léon XIV. Ils attendent de voir à quoi ressemblera ce pontificat. Chez les chrétiens maronites au Moyen-Orient, surtout en Syrie, on espère qu'il lancera de nombreux messages pour la stabilité dans la région. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
À Damas, la communauté maronite a suivi de près les événements au Vatican. Avec l'élection d'un nouveau pape, Nama, jeune chrétienne et habitante du quartier chrétien de Bab Sharqi, a vu l'enthousiasme de sa communauté créée par cette élection.
J'ai vu énormément de gens partager la nouvelle sur les réseaux sociaux. Ça m'a rendue vraiment heureuse et c'est un sentiment que tout le monde partage autour de moi. Je sens que ce pape va œuvrer pour la réconciliation. Son élection va permettre de rassembler tous les chrétiens et plus généralement de rassembler les peuples.
Les chrétiens maronites présents à Damas, Homs et Alep ont vu leur nombre diminuer au fil des années, passant de 2 millions à environ 500 000 personnes. Mais malgré cela, ils restent déterminés à préserver leur foi et leur culture. Pour Nour, une jeune fidèle, cette élection doit permettre d'apporter une paix durable pour la Syrie.
J'espère que grâce à ce nouveau pape, la guerre va définitivement s'arrêter, que les haines vont s'estomper et qu'il diffusera l'amour et l'entente pour nous tous.
La nomination du pape Léon XIV est perçue par les chrétiens maronites comme un signe d'espoir et de soutien international. Elle représente un encouragement à poursuivre leur mission de paix et de réconciliation dans une région marquée par des années de conflit. Mohamed Erami, Damas, RFI.
RFI 8h04 à Bamako et en temps universel. Au Mali, l'agression d'une figure du mouvement pro-démocratie, Cheikh Oumar Doumbia, a été attaquée dans la nuit de vendredi à samedi. Cela intervient dans un contexte de vives tensions, notamment après des enlèvements et tentatives d'enlèvement d'hommes politiques qui émettent des critiques contre le pouvoir de transition. Précision avec David Baché.
L'interposition de ses amis a permis à Cheikh Oumar Doumbia de s'en sortir avec une égratignure, selon ses proches. Mais cette agression au couteau suscite bien sûr de nouvelles inquiétudes. inquiétude pour les militants pro-démocratie. Jeudi, Alassane Abba du parti Kodem était enlevé à son domicile. El-Bachir Thiam du parti Yelema a quant à lui été enlevé en pleine rue. Hommes en armes et en cagoule, véhicules sans plaques, les méthodes de la sécurité d'État sont connues. Mais l'agression au couteau de Cheikh Oumar Doumbia n'y ressemble pas. La sécurité d'État ne tue pas publiquement, de surcroît en plein Bamako, affirme une source sécuritaire malienne, qui reconnaît par ailleurs que la sécurité d'État est bien à l'origine des enlèvements. Ces derniers jours, les soutiens des militaires au pouvoir ont multiplié les appels à la haine et à la violence contre les défenseurs de la démocratie. Des membres du Conseil national de transition ont ouvertement lancé de tels appels, largement diffusés sur les réseaux sociaux. Mercredi, quelques jours après l'éclosion d'un mouvement de contestation inédit depuis le début de la transition, les autorités ont interdit toutes les activités politiques des partis et associations dans le pays, jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public.
David Bachet. Il y a un mois et demi, un séisme meurtrier ravageait la Birmanie, faisant plus de 3600 morts. Il a aussi fait une dizaine de victimes en Thaïlande, le pays voisin. Et c'est en Thaïlande que des photographes birmans, anonymes, publient leurs clichés pour raconter cette catastrophe et la crise humanitaire qui frappe leur pays. Valentin Sébron a fait le tour de cette exposition à Bangkok.
Le corps d'une fillette inanimée tenue par un médecin, des fidèles musulmans qui prient dans la rue car leur mosquée s'est effondrée, ou encore des familles entières installées dans des camps de fortune le long d'une route. Au rez-de-chaussée du centre culturel et artistique de Bangkok, ces photographies inédites montrent l'ampleur du drame humanitaire en Birmanie. Directrice de l'ONG SEA Junction, Rosalia Shortino a organisé l'exposition avec plusieurs photographes birmans anonymes.
On souhaite sensibiliser le public sur l'impact qu'a eu le séisme, en espérant qu'il y ait une certaine empathie vis-à-vis de la situation, pour que les gens puissent donner, pour soutenir une aide qui ne profite pas à la junte militaire, mais directement à la population sur le terrain.
De passage à Bangkok, l'un des photographes exposés rappelle la passivité des militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2021.
Normalement, quand un désastre survient, le gouvernement a la responsabilité de s'emparer de la situation. Or, ce n'est pas le cas sur le terrain. En tant que photographe, la seule chose que je pouvais faire, c'était de prendre des photos pour organiser ensuite une collecte de fonds.
Depuis le début de l'exposition, à voir jusqu'au 18 mai, plus de 20 tirages ont déjà été vendus et toutes les ventes réalisées ainsi que les dons collectés seront directement reversés à des associations birmane sans passer par les autorités. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
En football, le dernier classico de la saison en Liga espagnole avec un enjeu majeur, la course pour le titre. Barcelone accueille Madrid et espère se consoler de sa défaite la semaine dernière en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Catalans sont pour l'instant en tête, mais le Real Madrid va tenter de rattraper son retard et rester dans la course, Pierre Chaperon.
Drôle d'atmosphère au Real Madrid. Un entraîneur, Carlo Ancelotti, annoncé sur le départ depuis un mois. Un classico qui ressemble à une fin de règne, mais aussi, peut-être, à l'espoir de sortir par la grande porte. Carlo Ancelotti.
Ce qui se passe autour, ou bien ce qu'il s'est passé autour du club dernièrement, ce n'est pas si compliqué. Nous n'avons pas été touchés cette semaine à propos de ça. Le plus important dans ce genre de match, c'est de donner une idée de jeu clair aux joueurs. S'ils m'écoutent, tout se passera bien.
Mais pour les supporters madrilènes, l'urgence, c'est ce classico, le quatrième de la saison. Et pour l'instant, aucun succès face au Barça. Luis, tatouage de l'écusson du Real sur l'avant-bras, résume l'état d'esprit ambiant, morose mais pas résigné. Il faut y croire jusqu'au bout.
L'espoir, c'est que le Real s'investisse un petit peu plus. Il faut qu'il se bouge, qu'il court. Sans ça, ils ne feront rien. Madrid n'a pas produit de jeu cette année. Il y a un peu d'espoir là, mais pas beaucoup.
Quatre journées encore, quatre points de retard pour espérer jouer le titre. Le Real doit absolument gagner. Une dernière chance ou le début d'un nouveau cycle pour le club merengue. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Barcelone, Real Madrid, coup d'envoi à 14h15, temps universel. Enfin en boxe, Souleymane Sissoko a une marche du titre mondial. Le franco-sénégalais a battu hier soir le lituanien Egidijus Kavalioskas à Malabo en Guinée équatoriale. Match de demi-finale pour le titre WBC chez les poids welter. C'est les moins de 67 kilos. C'était le combat le plus difficile de sa carrière. Il a longtemps bataillé, été envoyé au tapis deux fois avant de faire la différence au point au bout des 12 rounds. Après sa victoire, Souleymane Sissoko est donc le prétendant numéro 1 pour obtenir la ceinture mondiale. Elle est actuellement détenue par l'américain Mario Barrios. 10h10 à Paris, à suivre sur RFI, Mémoire d'un continent.